pour investir, le placement à suivre.
Et on retrouve Julien Lebenzal d'Itoro qui nous fait l'amitié d'être en plateau aujourd'hui. Bonjour Julien.
Bonjour Antoine.
Merci d'être là. Alors bien évidemment, on va revenir sur le gros titre qui monopolise l'attention depuis vendredi soir. C'est la dégradation de la note de crédit de la France par Fitch. Alors c'est jamais un... Bon, on minimise les choses. C'est vrai que les marchés quand même le prennent relativement bien. C'était très très anticipé. Mais il ne faut pas oublier que la baisse d'une note de crédit souveraine, aussi importante que celle d'un pays comme la France, c'est un événement important sur les marchés. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue? Parce que là, on voit que les marchés s'emballent un petit peu d'un air de dire bon, c'est réglé. Oui, les impacts, ils seront d'un peu plus long terme. Comment on se prépare à ça?
Ouais, je pense que les épargnants s'y préparent, en fait. Il y a une statistique qui est souvent décrite. Récemment, on en parle pas mal. C'est le taux d'épargne des Français. 17 à 18 %, oui. Alors que la moyenne européenne est 13 %. Et en fait, cette épargne, elle pourrait refléter ce climat anxiogène autour des déficits élevés, du niveau de la dette, la dette qui progresse et cette dégradation qui vient... Bon, a posteriori, nous rappelons, c'est pour ça que les marchés ne réagissent pas, nous dit a posteriori cette notation, que la dette française a beaucoup progressé. Alors, bon, on peut rester dans la partie anxiogène. Je voudrais peut-être dire en introduction, être un peu plus positif. Il y a les 17-18%, si on ajoute le crédit immobilier et les remboursements pour notamment les résidences principales, on fait un taux qui doit faire 20 à 25%, on fait à peu près 40%. Ça veut dire qu'il y a 40% des revenus qui partent dans le futur, qui partent pour le futur.
Oui,
et
c'est
en fait,
ça.
C'est bien.
Oui.
Non, mais on peut le regarder positivement.
Oui, oui.
Ça veut dire que les Français, comme d'autres pays, mais enfin les Français, puisqu'on parle d'eux là ici avec le taux de 17-18, les Français mettent 40% de leurs revenus pour des choses qui vont advenir. Ça veut dire qu'ils ont une vision de ce qu'est un patrimoine, de ce qu'est le futur, des risques, de la manière de se prémunir des aléas de la vie. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut aussi le dire dans ce sens-là.
Oui, voilà. Par principe, c'est avisé de se couvrir et de prévoir à ce niveau-là. C'est peut-être les manières d'investir qui sont investissement dans le futur, on va dire.
Justement, ce taux de 17-18%, pourquoi il est plus élevé? Alors, l'économiste David Ricardo avait une intuition, c'est au 19e siècle, en disant, en fait, si vous faites un cadeau fiscal à vos citoyens, ils vont comprendre qu'on va vous le reprendre plus tard. Ils le comprennent. Ils savent quand on vous donne quelque chose, rien n'est gratuit. Schématise sur l'expression de l'époque. On vous donne 1 000 euros de baisse d'impôt. Que font les gens, selon lui? C'était son intuition. Ils économisent 1 000 euros tout de suite parce qu'ils savent qu'on va leur redemander ça plus tard. C'est ce sorte de bon sens, d'attitude rationnelle. Alors, est-ce que cette intuition est vraie? C'est connu sous l'acronyme en économie d'équivalence ricardienne, mais c'était repris par un économiste américain dans les années 70 qui lui a fait des études. Et il a vu aux États-Unis que ça fonctionnait pas mal. Et on a fait d'autres études après dans l'OCDE, ça fonctionne correctement. Et le pays où ça fonctionne parfaitement, c'est le Japon. Les Japonais ont toujours eu l'attitude rationnelle d'épargner face à une difficulté de l'État à venir. Donc, conclusion de tout ça, c'est quand même très probable que le taux de 17-18% soit à relier avec la compréhension que les ménages ont du fait que de financer, par exemple, des retraites dont le régime n'est plus équilibré ou ne le sera plus par du déficit public, c'est quelque chose qu'à un moment, on leur demandera d'une manière ou d'une autre, soit en baissant les retraites, en augmentant les impôts. Voilà. C'est une attitude, encore une fois, qui est rationnelle. D'ailleurs, c'est une des hypothèses de validation de cette théorie. Alors maintenant, pour nous, pour ce qui concerne les marchés financiers, alors nous, on le voit très bien, l'éducation, on dit toujours l'éducation financière des Français n'est pas assez bonne, c'est pour ça qu'ils n'investissent pas. C'est vrai et faux. En tout cas, les professionnels bougent beaucoup depuis quelques années pour améliorer l'éducation financière. Donc, on s'en rend compte nous-mêmes, on a une académie Itoro, mais d'autres le font et très bien, et vraiment des choses remarquables. On se rend compte que nos clients, enfin les épargnants, comprennent ce que c'est qu'un investissement de long terme. Ce qui veut dire qu'ils ne se ruent pas systématiquement sur le fonds en euros. Ils le comprennent.
Oui.
Mais dans les 17-18% dont je parle, y a cette idée que, comme on a un déficit et une hausse d'impôts devant nous, sur quel support on va placer cette épargne qui correspond à cette anticipation? Sur une épargne de type fonds en euros. Donc, on n'investit pas. Et c'est ce qui explique beaucoup le côté le côté extrêmement stable de l'épargne non qu'on qualifierait de non productive. C'est qu'il y a une telle anticipation des conséquences de la situation qu'en fait on ne va pas tellement sur les supports d'investissement de long terme. Et encore une fois, je le dis pour l'expliquer, mais je dis qu'en même temps, les épargnants comprennent de mieux en mieux la problématique de l'allocation long terme. On le voit quand ils établissent leur plan d'épargne retraite, ils ne cherchent pas du tout à aller sur un fonds en euros. Ils comprennent qu'il faut être disposé avec des obligations de long terme, avec des actions, avec éventuellement d'autres choses, comme un peu de private equity, des choses comme ça. Mais ils comprennent que eh bien, cet argent qui est là pour fructifier pendant 20, 25, 30 ans, n'entre pas dans la considération des trimestres ou années à venir, qui est celle de l'anxiété de la dette publique.
Ce qui est très intéressant hein, à travers ce paradoxe, parce qu'on le répète aussi, hein, le principal argument pour investir dans tel ou tel support de la part des investisseurs, c'est sa liquidité, sa disponibilité. On voit que non seulement on est prêt à mettre de côté, mais en plus à se dire « bon, ça ne va pas me rapporter grand-chose, mais bon, c'est comme ça ». Mais au moins, l'argent est de côté et est là pour financer d'éventuels revers d'environnement. Quoi.
Mais là encore, c'est rationnel, parce que comme vous ne connaissez pas la date, le moment auquel on va vous demander un peu plus d'impôts, ou on va vous donner un peu moins de quelque chose, je citais les retraites, vous ne la connaissez pas cette date, vous n'avez donc doit progresser pendant 20 ans. C'est bien ce qu'il a en tête, et c'est là qu'il accepte le risque. En revanche, l'épargne dite de précaution, mais je l'élargis à l'épargne dite d'anxiété par rapport à la situation, cette épargne-là, comme on n'a pas d'horizon de temps, attitude rationnelle, je dois être sur un support plutôt liquide, même s'il me rapporte peu. Et c'est comme ça qu'on obtient une surépargne, et notamment sur des produits qui ne sont pas de vrais produits d'investissement de long terme.
Alors même qu'on voit que les marchés actions, enfin, il faut vraiment une bombe nucléaire pour les arrêter. Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine hypothèque géopolitique qui rend cette image un peu bizarre, mais il y a du rendement à prendre sur le marché actions, aussi bien du point de vue de la performance que du coupon. Et on sait qu'on gagne, je ne veux pas dire à tous les coups, ce serait bête de dire ça, parce qu'il y a toujours de la volatilité à court terme, mais on voit que fondamentalement, tout pousse l'épargnant vers les actions, qui est le support le plus dynamique. C'est peut-être celui qui lui fait le moins envie, finalement.
Il se retrouve dans l'équation que je décris. Il a cette incertitude sur l'horizon fiscal, en quelque sorte, qui l'amène, l'incite à ne pas prendre un risque. Parce que si vous devez utiliser une partie de votre capital dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'il se passe quelque chose au niveau de la fiscalité, vous savez que vous ne pouvez pas être sur les actions. C'est là où l'éducation financière progresse. Ouais. Des gens comme nous, et encore une fois, beaucoup d'autres acteurs du marché font un travail pour expliquer que si vous achetez un portefeuille d'actions aujourd'hui, eh bien, vous pouvez perdre dans un an 25%. Vous pouvez gagner dans un an 25%. Mais ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que si vous tenez en moyenne une durée supérieure à 5 ans, et idéalement 10 à 15 ans, eh bien, assez systématiquement, vous êtes en situation de gain. Donc, votre épargne a progressé, et en général, plus que l'inflation. Ça, c'est des choses qui sont admises. Je reviens toujours au point de départ. Pourquoi elle est faite, cette épargne ? Pour un ensemble de raisons. Et c'est pour ça qu'on trouve un ensemble de supports qui sont présents. Mais beaucoup de supports, beaucoup et trop de supports liquides du fait de la visibilité que les gens ont rationnellement sur la fiscalité.
Et donc, plus on est liquide, hein, moins il y a de moyens de rendement hein, nécessairement.
Exactement.
Puisque, évidemment, c'est le risque qui va déterminer tout ça. Donc, ce que vous conseillez, en fait, c'est quand même d'examiner ses besoins, d'examiner ses priorités, d'avoir toujours à cœur de, on va dire, de diversifier au mieux les supports d'investissement, mais toujours avec cette échelle de temps qui va déterminer de quoi j'ai besoin.
Exactement. Il faut pas considérer. Alors, on a là où vraiment les épargnants en général ont fait beaucoup de progrès grâce à l'industrie, c'est que l'inquiétude de l'épargne, c'est-à-dire je n'y comprends rien, je ne sais pas ce qui se passe, cette inquiétude commence hein, à s'estomper un peu. Toute l'activité en ligne d'explication de comment ça fonctionne aide beaucoup. Et donc, ce qu'il faut, c'est rentrer dans un travail d'examen, d'analyse de sa situation, de ses besoins actuels, de ses besoins futurs, de la manière dont organiser tout ça, et ensuite construire justement son patrimoine et la progression de son patrimoine en alimentant chaque mois telle ou telle poche d'investissement. Et je le dis parce que je le constate, quand on parle plan épargne retraite avec des épargnants, ils savent que c'est pour la retraite. Dans leur esprit, c'est une case qui est bien séparée, bien isolée du reste. Et ils savent que là, ils vont prendre des risques. Donc, il ne faut pas être soit tout en risque en disant « je n'ai peur de rien », il ne faut pas être tout en prudence en disant « je ne sais pas ce qui va se passer ». Il faut examiner les besoins de chacun, la situation, et adapter la construction patrimoniale en fonction de ce que, encore une fois, beaucoup d'acteurs de l'industrie permettent aujourd'hui.
Les conseils, les bons conseils de Julien Nebenzahl, dit Taureau, sur la finance comportementale, qui est toujours riche d'enseignements. Merci beaucoup, Julien, à une prochaine fois.